Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui consacrée à un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, le père Georges Florovski, à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Larcher, auteur d'un livre paru cette année aux éditions des Sirtes, dont le titre est « En suivant les pères, la vie et l'œuvre du père Georges Florovski », qui présente l'immense intérêt, après une longue introduction et la biographie évidemment de Florovski, de présenter 25 articles de ce dernier traduits pour la première fois en français. Alors Jean-Claude Larcher, on va commencer par le titre de votre ouvrage, « En suivant les pères », qui est un titre qui résume très bien d'ailleurs la pensée, l'œuvre de Florovski.
Oui, parce qu'une des thématiques principales de l'œuvre de Florovski, c'est le retour au père. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans son œuvre. Et un retour au père qui est justifié par le fait que l'enseignement des pères, la relation au père, le recours au père a été abandonné pendant plusieurs siècles par la théologie russe qui d'abord a subi depuis le XVIe siècle et jusqu'au XXe siècle alternativement des influences catholiques et protestantes, puis au XIXe siècle des influences de la philosophie idéaliste allemande, et donc les pères n'étaient plus la source d'inspiration première des théologiens, ou en tout cas les théologiens en majorité ne se référaient plus aux pères, ou les citaient parfois, mais d'une façon telle qu'ils occupaient une place secondaire et parfois même étaient subordonnés à leur propre pensée. Et donc, on peut dire que la grande œuvre du père Georges Florovski au XXe siècle a été de rappeler l'importance des pères et de la relation aux pères, et pas seulement du recours aux pères et de la citation des pères dans la théologie orthodoxe, de ranimer l'esprit des pères dans la théologie orthodoxe, d'une façon d'ailleurs assez intéressante, parce que il insistait beaucoup sur le fait que le recours au père ne doit pas être un recours au passé, ne doit pas être non plus une simple citation des pères, que ça ne doit pas être un simple rassemblement par des anthologies de textes des pères, mais que il s'agit en même temps que de se référer honnêtement, scrupuleusement, précisément au père, de travailler à une synthèse répondant à des questions nouvelles que le monde en évolution pose inévitablement, d'une manière, si vous voulez, qui à la fois soit créative, puisqu'il s'agit d'aborder des problèmes nouveaux et donc d'y répondre d'une façon nouvelle, mais dans la continuité des pères et dans leur esprit même. C'est-à-dire, il s'agit évidemment de s'inscrire dans une tradition, mais d'une tradition qui n'est pas conçue seulement comme la répétition du passé, mais comme englobant l'ensemble du temps, y compris le présent et l'avenir.
Écoutez, une vie très très riche. Nous allons la parcourir en vitesse pour nous concentrer après sur l'œuvre de Florovski. Une vie, je dirais, aussi très cosmopolite, hein, parce qu'on le voit à plusieurs endroits du monde. Et si vous voulez bien, bon, d'abord, prenons ces étapes de sa vie terrestre, je dirais.
Oui, alors Florovski est né à Elisavetgrad, qui est situé en Ukraine, en 1893, mais l'année suivante, il a suivi son père qui a été nommé directeur du séminaire d'Odessa, puis ensuite recteur de la cathédrale d'Odessa. Donc il a passé son enfance et son adolescence à Odessa. Et c'est là aussi qu'il a commencé des études supérieures à l'université. Mais en 1919, il a dû, comme beaucoup de Russes, en raison de la révolution, s'exiler. Et comme beaucoup de Russes aussi, il s'est retrouvé à Sofia, qui était un lieu, je dirais, presque un passage obligé, un lieu d'exil pour énormément d'immigrés, notamment d'intellectuels. Et là, à Sofia, il a soutenu sa thèse. Il s'est aussi inscrit, mais très brièvement et d'une manière très particulière, dans le mouvement eurasien, qui n'avait rien à l'époque à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puis ensuite, En 1921 et jusqu'en 1926, il est allé à Prague où les intellectuels orthodoxes avaient reconstitué une sorte d'université. Et là, il a rencontré beaucoup d'intellectuels, en particulier Bulgakov, avec lequel il s'est lié. Bulgakov est devenu d'ailleurs à cette époque son confesseur. Il a rencontré aussi Nicolas Lossky, le père de Vladimir, le jeune Vladimir Lossky et bien d'autres, parce que à cette époque, le président de la République avait donné des facilités aux immigrés russes pour participer activement à la vie universitaire. Et donc, il y avait tout un centre intellectuel à Prague. Et puis, Bulgakov avait été appelé à Paris en 1925, où un institut, l'Institut Saint-Serge, venait d'être créé pour répondre aux besoins en formation du clergé dont avait besoin le milieu de l'émigration, qui était alors assez important à Paris. Et Bulgakov avait donc besoin d'enseignants dans diverses spécialités, et donc il a demandé à Florovski de venir enseigner la pathologie. Florovski avait une formation déjà en pathologie, mais ce n'était pas sa spécialité. Il était plutôt historien et philosophe. Il aurait bien voulu enseigner la philosophie, mais on lui a demandé d'enseigner la pathologie. Et donc, il s'est vraiment spécialisé en pathologie. Et les cours donc de pathologie qu'il a dispensés à l'Institut Saint-Serge pendant les années suivantes ont été réunis en trois volumes, un consacré au père du IVe siècle, un autre au père du Ve siècle et un autre au père ascétique. Et ce sont, on peut dire, les seuls ouvrages de Florovski, avec une seule vraie monographie qu'il a publiée plus tard, Les voies de la théologie russe. Autrement, l'œuvre de Florovski, qui nous allons le dire, est immense, a pris surtout la forme d'articles. Alors, à Paris, il est entré assez vite en opposition avec Bulgakov. Il était personnellement lié avec lui, mais la philosophie religieuse de Bulgakov centrée sur le thème de la Sophia, donc qui donnait lieu à une philosophie religieuse qu'on appelait la sophiologie, était quelque chose qui ne lui paraissait pas conforme à la théologie orthodoxe, qui lui paraissait inspiré par certains courants de la philosophie allemande, en particulier des courants ésotériques avec Jacob Böhme. Bulgakov était aussi un disciple de Soloviov, qui avait développé ce courant sophiologique en Russie. Florovski pensait que ça n'était pas du tout dans la tradition orthodoxe, donc il a très vite participé à une opposition à la philosophie religieuse de Bulgakov, mais aussi à la philosophie religieuse en général, parce qu'il faut dire que la plupart des émigrés russes qui enseignaient dans les universités occidentales, pas seulement à l'Institut Saint-Serge, étaient les héritiers justement d'un courant fortement inspiré par la philosophie allemande, mais aussi par le catholicisme et le protestantisme. C'était une sorte de mélange, si vous voulez, entre des traditions diverses qui n'étaient pas vraiment orthodoxe. Et en outre, la philosophie religieuse qui se présentait à cette époque-là comme étant la théologie orthodoxe ne correspondait pas aux critères selon lesquels d'habitude la théologie orthodoxe se développe. C'est-à-dire qu'on avait plutôt la notion proprement philosophique d'un auteur qui développait sa propre théorie, ses propres conceptions, une sorte de vision individualiste de la théologie. Et donc, il paraissait à Florovski que, là encore, ça n'était pas conforme à la pratique habituelle dans l'Église orthodoxe, qui s'inscrivait dans la catholicité de l'Église, où le théologien n'était pas au service de ses propres idées, mais au service de la foi commune de l'Église. Et donc, si vous voulez, cette opposition à cette tradition de la philosophie religieuse russe, qu'on appelait parfois aussi la Renaissance russe, a donné lieu à un livre très très important, le seul vrai livre de Florovski, un livre qui a été traduit en français d'ailleurs, Les voies de la théologie russe, où il reproduit toute l'histoire de la théologie russe en montrant justement quelles ont été ses déviations, quelles ont été ses fluctuations, en montrant parfois aussi quels ont été les vrais représentants de la théologie traditionnelle. Mais ce livre a suscité, si vous voulez, évidemment une inquiétude et même une opposition dans les milieux libéraux qui étaient majoritairement ceux des intellectuels orthodoxes en France. Et très vite, donc, Florovski a été obligé de prendre ses distances par rapport à l'Institut Saint-Serge, où ces théologiens libéraux étaient majoritaires, et presque tous d'ailleurs sous l'emprise de Bulgakov, qui était vraiment la personnalité dominante. Et il a, à partir de 1937, eu une vie qui a été surtout une vie de conférencier à l'étranger. Il a commencé aussi à participer en tant que témoin de la tradition orthodoxe au Conseil œcuménique des Églises, plus particulièrement dans la branche théologique foi et constitution, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a occupé toute sa vie. Puis est venue la guerre, et donc il a dû s'exiler pendant 5 ans en Yougoslavie. Là, il a eu beaucoup de contacts avec les Russes qui s'y trouvaient aussi exilés, notamment l'Église russe hors frontières qui avait son siège là-bas. Puis il est retourné pour un an en Tchécoslovaquie en 1944-1945. Il est revenu à Paris de 1945 à 1948. Il a donné des cours perlés de nouveau à l'Institut Saint-Serge, mais il était le plus souvent absent parce que là encore, il voyageait dans le monde entier pour donner des conférences, participer à des colloques. Et alors, en 1948, il était appelé au séminaire de Saint-Vladimir à New York, qui venait aussi d'être constitué et auquel les fondateurs voulaient donner une dimension universitaire. Donc vraiment, Florovski a établi une formation de très haut niveau. Ça a créé des oppositions parce que, si vous voulez, les responsables avaient moins d'ambition quant au niveau. Florovski voulait donner aussi toute son importance aux études grecques et, comme les Russes étaient majoritaires, il voyait ça plutôt d'un mauvais œil. Et donc, il a dû, je dirais, après aussi de nouveau un certain nombre de conflits, abandonner sa position à l'Institut Saint-Vladimir, enseigner un an au collège hellénique de Holy Cross à Boston, qui était le séminaire de formation du clergé grec, mais a surtout été appelé à enseigner dans des universités prestigieuses, d'abord celle de Harvard entre 1956 et 1964, et surtout à la fin de sa vie, mais tout de même pendant 15 ans, à Princeton. Donc on peut dire que Florovski a été sans doute le théologien orthodoxe qui a eu la participation la plus importante aux plus hautes instances universitaires américaines, mais aussi mondiales, parce que pendant tout ce temps-là, il était invité à des colloques scientifiques internationaux dans toutes les grandes capitales européennes.
Un grand théologien, un érudit à la fois.
Un érudit aussi, oui.
Alors, on fait une pause. C'est un chant de communion par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Lana Peradze et on revient à notre entretien. De communion par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Lana Peradze. Nous revenons à notre entretien avec Jean-Claude Larcher sur son livre « En suivant les Pères, la vie et l'œuvre du Père Georges Florovski ». Jean-Claude Larcher, en préparant cette émission, vous m'avez dit on peut dégager deux axes principaux dans la pensée du Père, dans son activité théologique. D'abord, la critique de l'évolution de la théologie russe qui était soumise depuis le XVIe siècle aux influences occidentales, comme vous l'avez expliqué à l'instant. Et puis, l'explication de ce qu'est l'Église. Et évidemment, ça, c'est fondamental parce qu'il a, il fait ancrer l'Église de manière absolue, je dirais, dans la christologie, hein, en insistant beaucoup sur le fait que le Christ est en fait la tête de l'Église. Il reprend la théologie paulinienne et en disant que l'Église est en lui, en Christ. On va prendre quelques points, si vous voulez, de ce livre et de vous résumer sa pensée, si possible, en quelques minutes.
Oui, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que ce livre, dans ses 25 articles, aborde énormément de thèmes. Il y a le thème, bien sûr, de la tradition, mais aussi le statut du dogme, le statut des conciles, le statut de l'écriture, les relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le vrai sens de l'œcuménisme aussi. Mais c'est vrai que, pour lui, l'Église a une importance capitale, justement. Il insiste, par exemple, en ce qui concerne la théologie, sur le fait que la théologie doit être faite, comme je l'ai dit, non pas d'une manière individualiste, comme une sorte de création intellectuelle, individuelle ou même personnelle, mais que c'est un travail qui doit être entrepris, si vous voulez, dans la vie de l'Église, c'est-à-dire en relation avec ce qu'est l'Église dans sa totalité. Il insiste beaucoup sur la catholicité de l'Église. Alors la catholicité de l'Église n'est pas seulement son expansion géographique, son universalité géographique, mais aussi son universalité dans le temps et aussi l'universalité consistant dans la totalité de ses représentants dans toute son histoire. Et donc, si vous voulez, pour lui, le travail du théologien devait se faire en harmonie avec ce que l'ensemble des membres de l'Église ont pensé, pensent et penseront. Et justement, c'est ce sens qu'il donne à la tradition, une sorte de continuité dans le temps de la même foi qui se perpétue, qui en même temps est capable de s'exprimer d'une manière nouvelle à chaque époque, mais dans la parfaite fidélité au kérigme, c'est-à-dire à la prédication apostolique. Il y a ce pôle à la fois d'adaptation à une réalité sociale toujours nouvelle, mais aussi d'une absolue fidélité à un enseignement premier qui ne peut pas changer dans ses fondements. Et ce qui est important aussi, c'est que pour lui, le théologien doit s'inscrire dans la vie communautaire de l'Église. L'Église, c'est pas une réalité abstraite, c'est pas une institution, c'est une vie communautaire qui évidemment existe dans la vie liturgique, mais qui existe aussi dans la communion des saints, qui est la communion de tous les fidèles, communion spirituelle dans la totalité du temps aussi. C'est pour ça que la communion avec les pères n'est pas une relation avec des personnes du passé, mais avec des personnes toujours vivantes. Il doit y avoir donc cette conception d'un travail commun. Le théologien lui-même doit être immergé dans la vie spirituelle pour pouvoir théologiser correctement, c'est-à-dire qu'il doit agir avec une certaine humilité, mais aussi avec amour par rapport aux autres membres de la communauté. Il doit agir non pas de manière séparatiste, mais de manière unitive. Et donc ce sens, si vous voulez, de la communauté, et de la catholicité de l'Église comme totalité unie, vivante, comme totalité aussi dont les membres sont organiquement liés entre eux, est quelque chose de très fondamental pour lui.
Alors, une autre chose qui, pas étonne, mais qui complète peut-être son image, quelqu'un de si ancré dans la tradition, quelqu'un qui demandait aux gens de travailler si possible les langues anciennes, en particulier le grec, pour avoir accès direct aux textes des pères, etc. Donc, quelqu'un de si ancré dans la tradition orthodoxe, et qui pourtant est ouvert au vrai sens de l'œcuménisme.
Oui, alors il avait aussi l'idée, évidemment, que la vraie foi chrétienne, c'est la foi orthodoxe, qui était la foi commune du premier millénaire, et il pensait que cette foi du premier millénaire n'est pas une foi ancienne, mais que c'est quelque chose qui se continue d'une manière vivante dans l'orthodoxie. Donc il pensait que les catholiques et les protestants devaient rejoindre cette foi, mais il avait aussi l'idée qu'il a développée au cours de toutes les réunions œcuméniques auxquelles il a participé au plus haut niveau, qu'il devait y avoir une collaboration active des orthodoxes, un travail en commun avec les catholiques et les protestants pour justement retrouver cette foi. Et en prenant dans le passé les points où il y avait eu des carrefours, où les voies, les conceptions s'étaient séparées. Donc il pensait que les points de séparation devaient être vraiment retravaillés. Il ne s'agissait pas pour les orthodoxes d'attendre passivement que les non-orthodoxes rejoignent l'orthodoxie, pas du tout, il fallait un engagement, et c'est un message qui est toujours vivant, un engagement des orthodoxes pour retravailler toutes les questions et pour retrouver en commun, si vous voulez, les vraies racines de la foi et cette tradition perdue par un certain nombre de chrétiens sur laquelle autrefois tous s'entendaient. Et donc, il appelait, si vous voulez, les orthodoxes, justement, à s'engager dans ce type d'œcuménisme, ce qu'il appelait un œcuménisme dans le temps, parce qu'il s'agissait de retrouver non pas seulement la foi du premier millénaire, mais aussi de s'engager par une étude sérieuse dans l'étude du protestantisme et du catholicisme, là où justement il manifestait des divergences avec l'orthodoxie, pour trouver l'origine des points de divergence et pour essayer de retravailler sur ces points et de retrouver à travers notamment l'étude des pères communs la foi qui était commune à l'origine.
Voilà, donc on voit ici l'actualité, je dirais, du travail théologique. Vraiment se fonder sur l'héritage, qui est énorme, des pères. Et puis il y a cet appel à une période néopatristique, hein, c'est cette idée qu'on peut retrouver le sens des pères aujourd'hui, et en même temps l'ancrage dans la réalité d'aujourd'hui, avec les chrétiens non orthodoxes, enfin nos frères, et essayer de trouver dans les racines de l'Église indivise les solutions à ça, parce qu'en fait il s'agit de ça.
Et on voit comment, dans tous les articles qui sont publiés dans le livre, vraiment Florovski entre en dialogue avec les autres confessions chrétiennes, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit en même temps d'une confession de l'orthodoxie dans sa conception vraiment traditionnelle, d'une confession de l'identité orthodoxe, mais en même temps, toujours, il y a ce souci de dialogue, à la fois pour des orthodoxes qui, selon lui, se sont écartés de la bonne manière de faire de la théologie, mais ou de la bonne manière, si vous voulez, d'intégrer la théologie dans l'Église, mais aussi un dialogue avec les catholiques et les protestants, et sur des questions, si vous voulez, qui sont celles de l'Écriture, du vrai sens des conciles aussi, et d'autres points sur lesquels il peut y avoir aujourd'hui encore des divergences.
Jean-Claude Larcher, merci beaucoup. Alors évidemment, le livre est très riche, tant par l'avis du père Florovski que vous donnez, l'introduction, etc. Puis évidemment, ce trésor, les 25 articles traduits pour la première fois en français, ça donne accès à beaucoup de monde, à la pensée d'un des plus grands esprits du monde orthodoxe du XXe siècle. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, Jean-Claude Larcher, En suivant les pères, la vie et l'œuvre du père Georges Florovski, paru aux éditions des Sirtes en 2019. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.